Christian Goudineau, merci de répondre aux questions de Néopodia. Je rappelle que vous êtes historien, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'Antiquité nationale. On a coutume de vous présenter comme le plus grand spécialiste français de l'histoire de la Gaule. En votre compagnie, si vous le voulez bien, nous allons aborder l'un des mythes fondateurs de l'histoire de France. Je veux parler de Vercingétorix. On va peut-être au passage tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues sur ce personnage historique. En premier lieu, Christian Goudineau, qui était Vercingétorix et plus précisément, que sait-on à coup sûr de ce personnage ?
Et la question que vous me posez est la question piège par excellence, puisque un historien est habitué à avoir un certain nombre de sources à sa disposition, et que malheureusement pour Vercingétorix, les sources sont très peu nombreuses. Parce que peu d'auteurs anciens ont écrit sur lui, et que ceux dont nous avons gardé les témoignages se sont tous inspirés d'une source unique ou à peu près, qui est le récit de la guerre des Gaules que fait César. Or, on a démontré depuis bien longtemps que le récit césarien, même s'il ne truquait pas les faits, ça lui aurait été impossible vu l'entourage qu'il avait à côté de lui, néanmoins était capable de les orienter et était capable d'imposer un lecteur qui n'est pas le lecteur d'aujourd'hui, mais qui est un sénateur romain qui se trouve à des centaines de kilomètres de là, sa propre vision. Alors, Vercingétorix apparaît chez César au moment où va éclater ce qu'on appelle la grande révolte générale, en 52 avant Jésus-Christ. Alors, je rappelle en deux mots, ça fait déjà 6 ans que César combat dans ce que nous appelons la Gaule à sa suite, c'est-à-dire un espace qui va de l'Atlantique au Rhin. Donc, que s'est-il passé durant ces années-là ? Eh bien, après être intervenu en Gaule pour mater une grande invasion qui voit les Helvètes du canton suisse se diriger vers l'ouest, une migration qui avait été tout à fait préparée par accord entre les peuples. César, qui a rétabli la situation, il ne faut pas oublier qu'il était là en tant que gouverneur de la province romaine de Transalpine, c'est-à-dire le midi de la Gaule, César veut y rester. Et il veut y rester pour accroître sa gloire, pour également...
Faire des affaires.
Sans aucun doute, faire des affaires. On voit au détour de son texte qu'il est accompagné d'un grand nombre de très grands commerçants qui sont capables de lui acheter du jour au lendemain quelques milliers de prisonniers, comme ça. Hein. Et n'oublions pas non plus une autre chose capitale, à savoir que pendant ses premières années, César avait comme meilleur allié les plus grands peuples de la Gaule, et notamment les Arvernes, les Éduins, c'est-à-dire les peuples de la Gaule centrale. Et alors, cette belle mécanique qui devait l'amener, disons, à instaurer au moins un protectorat sur le pays dont il avait défini lui-même les limites, pour ses raisons économiques et ses raisons de gloire, il passe en Angleterre, il franchit le Rhin, enfin, ça a un côté Armstrong sur la Lune. Hein. Non, mais il faut être sensible à ça, parce que c'était considéré comme des exploits dans l'Antiquité. Donc la belle mécanique s'enraye. C'est-à-dire que les uns après les autres, ses alliés vont faire défection.
Pourquoi ? Parce que César en fait trop, finalement ?
Eh bien, probablement. César ne donne évidemment aucune espèce de raison, sinon que ces gens-là sont des gens finalement qui sont fantaisistes, qui peuvent changer d'avis. Bon. En réalité, ce sont des pouvoirs constitués, il y a des changements de majorité au sein de leur Sénat, et on déclare finalement qu'il faut combattre César après l'avoir suivi. Au début de l'année 52, se lance une grande insurrection qui va se généraliser et à la tête de laquelle, après avoir fomenté au sein de son peuple, le peuple arverne autour de Gergovie, après avoir fomenté un coup d'État, Vercingétorix s'empare du pouvoir chez les arvernes, puis va coaliser autour de lui des forces de plus en plus importantes.
Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur la façon dont Vercingétorix s'empare du pouvoir chez les Arvernes ? Dans quelles circonstances est-ce que cela se passe ?
Eh bien, c'est encore une fois César qui nous l'apprend. Est-ce vrai, est-ce faux? Le Sénat arverne était dominé par une majorité pro-césarienne. Vercingétorix opère un véritable coup de main, à la fois politique, mais aussi d'ordre physique, d'ordre militaire. Il rassemble, nous dit César, des partisans, et puis voilà, il s'empare des sénateurs, il s'installe à leur place.
Et est-ce qu'on sait comment il va ensuite fédérer les autres peuples de la Gaule, en dehors des Arvernes?
Alors, à la fois pour des motifs idéologiques, César ne le cache pas, mais aussi, semble-t-il, par la corruption, c'est-à-dire en faisant couler ce qu'on a appelé l'or arverne. Alors là encore, est-ce vrai, est-ce faux?
A priori, au moment de ce coup de force pour prendre la tête du peuple des Arvernes, c'est déjà un guerrier aguerri. Il a servi sous les ordres de Jules César.
Eh bien, c'est une question qui fait, là encore, disons, polémique, parce que vous imaginez bien ses implications. Alors, on a un texte qui n'est pas d'inspiration césarienne, c'est un des rares, qui a été écrit au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, par un grand personnage qui a occupé les plus hautes fonctions au sein de l'État romain, et qui, à la fin de sa vie, s'est arrêté pour écrire une histoire, une grande histoire, et qui est une histoire très sérieuse. Et il nous décrit la reddition de Vercingétorix, on y reviendra sans doute plus tard, en disant que Vercingétorix avait pensé, après Alésia, ayant été capturé par César, que celui-ci lui ferait grâce en raison de leur ancienne amitié. Mais, ajoute-t-il, César fit le contraire, il lui reprocha de l'avoir trahi, le fit enchaîner et expédier à Rome. Alors, l'affaire de l'ancienne amitié peut fort bien s'expliquer, puisque, comme je vous l'ai dit, César avait avec lui des alliés qui étaient les grands peuples, et on se méfiait toujours plus ou moins de ses alliés. Donc, une des pratiques courantes, c'était de prendre les fils des chefs avec soi, de les former, de les avoir sous sa tente lorsqu'on décidait des opérations, bref, de les impliquer de plus en plus dans la conduite des opérations stratégiques, c'est-à-dire de les mouiller complètement à mort. Bon. Alors, est-ce que c'est cela qui s'est passé avec Vercingétorix? Personnellement, ça ne m'étonnerait pas du tout, pour une raison simple. Voilà, d'après légende dorée, un petit jeune homme qui arriverait sans rien connaître de la guerre et qui tiendrait, pendant quand même plusieurs mois, qui tiendrait en échec un général comme César avec les légions aguerries qu'il avait sous ses ordres. Je n'y crois pas. Il faut que Vercingétorix ait eu une formation. Et cette formation a d'autant plus de chances de lui avoir été donnée par les Romains qu'on le voit mettre en œuvre des techniques militaires qui sont les techniques romaines. Par exemple, fortifier des camps, ce que ne faisaient pas les Gaulois. Par exemple, appliquer la tactique de la terre brûlée pour priver les Romains de vivre. Bon, et bien d'autres.
Donc on peut imaginer qu'aux alentours de l'an 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix quitte donc l'armée romaine pour son coup de force à la tête du peuple des Arvernes. Que se passe-t-il à partir de ce moment-là? Comment s'orchestre la campagne militaire de Vercingétorix, celle qui va le conduire jusqu'à Alésia? Quelles sont les principales étapes de cette campagne militaire?
Alors, Vercingétorix, comme je viens de le dire, a décidé d'éviter la bataille rangée parce que les Gaulois n'ont pas véritablement de troupes. Hein, ce sont des levées de paysans, hein, pour l'essentiel. Donc, il faut leur imposer une discipline, il faut les former véritablement à l'art de la guerre. Donc son idée va être d'empêcher toute bataille rangée, tout affrontement direct, mais comme il est chez lui, et comme ses alliés se multiplient, de placer l'armée romaine dans des positions de plus en plus difficiles à tenir. Alors, si vous voulez, on peut symboliser cela par trois exemples. Il y a eu effectivement trois moments décisifs dans cette grande campagne. Le premier moment, c'est ce qu'on appelle le siège de Bourges. Vercingétorix avait décidé donc la technique de la terre brûlée. Et César ressent de plus en plus durement l'absence d'approvisionnement. Il faut voir que ce sont des dizaines de tonnes chaque jour dont a besoin une armée comme celle qu'il a avec lui. Et donc Vercingétorix fait brûler à peu près toutes les villes, tous les villages, tous les greniers dans les endroits où se trouve César. Ses cavaliers tombent sur le dos des fourrageurs de l'armée romaine, et César, de plus en plus démuni, n'a plus qu'une solution, c'est de mettre le siège devant une des grandes villes dont on sait qu'elle regorge non seulement de richesses, mais surtout de vivres, qui est Bourges. Et il est probable que Vercingétorix a épargné Bourges, ou plutôt l'a laissé telle qu'elle, pour tendre un piège. Donc César se dirige vers Bourges, l'entoure en quelque sorte, enfin au moins en partie, parce qu'il y a des marais, c'est compliqué. Et Vercingétorix n'attend qu'une chose, c'est que l'armée romaine s'épuise, se démoralise, pour lui tomber derrière, en la prenant en revers.
Alors, hélas pour Vercingétorix, ça ne marche pas. César parvient à se sortir du piège de Bourges.
Ça ne marche pas, car César, en construisant des édifices de guerre gigantesques, d'énormes tours sur roulettes, bon, etc., je passe sur les détails, arrive finalement à s'emparer de Bourges. Non sans difficulté, c'était le mois de mars, il pleuvait, il grêlait, il faisait froid. Les soldats, néanmoins, ne se sont pas démoralisés, sont allés jusqu'au bout. Donc, on peut dire, cette fois-là, échec de Vercingétorix. Alors, Vercingétorix va en quelque sorte reproduire la même tactique, et cette fois, c'est le siège de Gergovie. Donc, Vercingétorix s'enferme, enfin, ne s'enferme pas, disons, occupe le grand plateau Arverne de Gergovie, qui se trouve juste à côté de Clermont-Ferrand, et César, de nouveau, vient y mettre le siège. Il est tout à fait probable que César a éventé un piège, le piège étant le suivant, Vercingétorix à Gergovie, César autour, et par derrière allait arriver le grand peuple des Éduins qui venait de faire défection. Et donc César, du coup, s'en va et s'est considéré, à juste titre, par les Gaulois comme une grande victoire. Donc, il faut bien imaginer, le général romain, avec ses 12 légions, ça fait 68 000 hommes à peu près, qui se replient. Autant d'esclaves, de serveurs, imaginez tous les chevaux, les bêtes de somme, bon, c'est des mouvements absolument extraordinaires. Donc César remonte légèrement vers le nord-est, dans la région, disons, de Sens ou quelque chose comme ça, où il va passer l'été à essayer de reconstituer le moral, les troupes, faire venir des cavaliers germains, tenter de renouer des alliances, mais il s'aperçoit que ça ne va pas marcher, et à la fin de l'été, il prend la décision de repartir vers le Midi.
C'est à ce moment-là que Vercingétorix se dit qu'il faut rattraper César.
Alors, c'est à ce moment-là que Vercingétorix lui impose une bataille de cavalerie qui a failli réussir. Hein, César est empêtré avec son énorme convoi. Mais les cavaliers germains, donc les mercenaires germains qu'il a recrutés, finissent par l'emporter. Et, nous dit César, le lendemain, Vercingétorix s'enferme à Alésia. Et César met le siège, le fameux siège. Alors, là encore, on peut se poser la question, est-ce qu'il ne s'agit pas de la répétition de cette même stratégie? Je m'enferme, tu viens m'assiéger, et je vais te faire tomber dessus par derrière, et une énorme expédition, et de fait, Vercingétorix envoie des courriers, des cavaliers, chez tous les peuples de Gaule, qui sont ses alliés, c'est-à-dire à peu près tous, pour lever une armée qui ferait entre 100 et 200 000 hommes.
Donc, une armée gigantesque.
Une armée gigantesque qui viendrait, et il y aurait donc César pris entre deux feux. L'armée vient, mais elle prend beaucoup plus de temps que prévu. susceptibilité entre les chefs, des lenteurs qu'on pourrait dire de type bureaucratique. Hein, il faut enrôler les gens, prendre leur nom, d'où ils viennent, etc. Et puis Vercingétorix et ses troupes, enfermées dans Alésia, manquent de vivres, hein, au point qu'ils chassent les civils qui se trouvent entre les lignes gauloises, les lignes romaines, et dont personne ne veut, et qui crèvent là de faim, plus ou moins hurlant. Bon, mais arrive la bataille décisive. Plusieurs fois, Vercingétorix tente de descendre d'Alésia, et César avait construit une première fortification. L'armée de secours tente de lui tomber par derrière, mais il y avait une seconde fortification qui défendait vers l'extérieur. Alors, elles sont plus ou moins rompues, mais César, grâce, il faut bien le dire, à son génie, mais aussi... Et il le reconnaît lui-même, il était comme Napoléon, il considérait qu'un général devait avoir avant tout de la chance. César, donc, finit par l'emporter, c'est la défaite d'Alésia, Vercingétorix capitule.
César lui-même reconnaît qu'il s'en est fallu de peu.
Tout à fait, oui. César considère que ça aurait pu tourner dans l'autre sens.
Qu'est-ce que dit César de l'après-Alésia? Que devient Vercingétorix une fois qu'il est capturé par les légions romaines?
Alors César n'en dit pas un mot. On a simplement un texte qui nous dit que Vercingétorix figura au triomphe de César, qui attendit d'ailleurs longtemps, puisque c'est en 46 qu'il triompha. Et là, donc pendant 6 ans, Vercingétorix était à Rome, vraisemblablement prisonnier, et à la fin du triomphe de César, il fut mis à mort.